J'ai découvert l'autre et je me suis aperçu que l'autre, c'est sacré.
Les paysages de la montagne, la mer, dont la manière de parler, la manière de danser, en forme de musique.
Pour casser cette barrière qui est entre nous, pour pouvoir faire la route.
J'en rêve.
Montagne cosmopolite.
Première partie.
Est-ce que vous pouvez me parler des paysages de votre enfance?
Paysages d'enfance, il y en a là. Voilà, la plage du côté de la frontière marocaine, Benissaf. Mon père, moi. Donc, l'environnement au bord de la mer. Et puis là, en bas, la photo de famille avec mon parrain au bout, là-bas, le vieux monsieur, qui était consul d'Espagne. Ça, c'est ma marraine, qui était venue quand mon grand-père est mort. Elle est donc en deuil. Et c'est le port d'Oran, depuis la Santa Cruz. La Sainte Vierge. La mer m'intriguait comme tous les enfants, évidemment. Et ces bateaux qui passaient au loin, c'était, comment dirais-je, j'étais enfant seul, unique. Donc ça fait une différence, c'est que j'étais dans mon monde et je le créais au fur et à mesure. Parce que j'avais plein de questions. La mer, pourquoi où est l'horizon? L'horizon m'intéressait, m'a toujours beaucoup intéressé. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, c'est Tlemcen, ville royale. Ça a beaucoup impressionné. Parce que je, n'ayant pas, comme tous les enfants, je connaissais rien du tout. Mais j'ai vécu à Tlemcen. Et j'ai mémorisé la spécificité de cette ville, où il y avait une population musulmane, enfin indigène, comme on disait, énorme de partout, et avec, ils étaient chez eux, avec leurs costumes, les femmes, les fatmas, ça criait, ça allait, ça venait, c'était une foule paisible, affairée. Avec les gosses qui vous couraient dans les jambes et tout ça. Il y avait une population juive aussi, les séfarades, donc, qui parlaient l'arabe couramment et l'espagnol couramment. Et c'était familier. Moi, j'avais 5 ans. Et qu'est-ce que j'ai aimé cette ville. Mon père était militaire, là. C'était en 1939. Mon père était sous-officier des Spahis. Les Spahis, c'est un corps qui avait été créé pour, avec des soldats autochtones, enfin indigènes. C'est un mot arabe. Mais c'était spectaculaire. Il était vêtu d'un sarouel bleu, avec un gilet doré ou jaune, je ne sais pas. Et puis, il avait une cape rouge. Et puis la chéchilla rouge, et il était sur un cheval. Et moi, j'adorais mon père. Tout ça pour vous dire que maintenant, je suis vieille, et au fond de moi, je m'autorise à pleurer, à m'émouvoir. Voilà, maintenant à 87 ans.
Votre père, il était né où?
Mon père?
Oui.
Oh là là, je la connais par cœur, l'histoire. Je la connais par cœur, c'est vraiment le mot qui convient. Vous voyez, j'ai travaillé dans le bled avec les moutons, le maire de la ville, la légion étrangère pendant la guerre. Mon père s'appelait Jérémy Macia, M-A-C-I-A. C'est un nom espagnol, mais plus spécifiquement un nom valenciano. Il était de la provincia de Valencia, c'est-à-dire au sud de Barcelona et au nord d'Alicante. Et à Valencia, la spécificité de ce port, c'est une lagune, une immense lagune d'eau douce. Et déjà les Romains, c'est eux-mêmes, d'après les historiens, qui auraient amené le riz du sud de l'Italie. Et voilà, la paella, elle a ça. Et donc, quand ma mère est morte, elle avait 54 ans. J'ai reçu une lettre anonyme, un bout de papier dans la boîte aux lettres. Pour qui tu te prends? Tu sais même pas d'où tu viens. J'ai été voir mon père et mon père s'est mis à pleurer. Il m'a dit mais non. Et puis finalement il m'a dit oui, on t'a adopté.
Vous saviez quel âge à ce moment-là?
Quand on m'a adopté.
Quand il vous a dit qu'il vous avait adopté.
19 ans. Je suis tombée du 5e étage. J'en arrivais pas à trouver. Je ne savais plus. Et quand j'ai touché terre, j'ai eu un immense chagrin, un immense sanglot. J'ai dit, mon Dieu, si j'avais su, j'aurais été meilleure avec ma mère. Parce que j'étais une enfant gâtée, j'étais une enfant... Ils m'ont pris, j'avais quelques jours. Parce que ma mère, ma génitrice, comme on dit, était morte à la naissance. Je ne sais rien d'elle. Un peu quoi? Je sais un peu par le consul. Ma mère était du Roussillon, donc le sud de la France, hein, du côté de Perpignan, par là. Et elle était la fille unique d'un cultivateur. Et vous savez qu'au moment des vendanges, je ne sais plus si ça marche encore, les Andalous, les ouvriers Andalous montent pour vendanger en France. Ils viennent jusqu'à Die aussi. Hein. Et donc, la jeune femme elle a aimé, je suppose, un Andalou, mais le père de la jeune femme n'a pas accepté. Et donc, quand l'Andalou est reparti, peut-être il savait pas, enfin... C'est trop compliqué. Et le père de la jeune femme, quand elle a été à terme, a pris le bateau, est arrivé à Oran, et sa fille a accouché, elle est morte. Moi, j'ai les traces du forceps. Et le téléphone a sonné, c'était des religieuses qui tenaient l'orphelinat d'Oran, de l'hôpital d'Oran. Parce que longtemps après, j'ai travaillé là. Il y a de ces hasards. Hein. Et, ouais. Mon père et ma mère sont venus de Sidi Bel Abbès, il y a 80 kilomètres. Ils avaient une voiture, ils sont venus à l'orphelinat et mon père m'a raconté, donc ce jour-là, tu sais, il y avait plein d'enfants dans les berceaux et tout ça. Et ta mère, elle disait, ma mère s'appelait Rose. Je ne peux pas dire ma mère adoptive, c'était ma mère. la plus belle fleur du jardin s'appelait Rose. Et mon père me dit, tu sais, ta mère, elle voyait tel bébé, elle disait, oh, celui-là, celui-là. Et moi, je disais, non, non, non. Et puis, on suivait la bonne sœur. Et puis, alors, dans une chambre, qu'est-ce qu'on voit? Un bébé avec la tête toute bandée et puis les yeux tout malades. Et la mère supérieure dit, voilà, c'est cet enfant qui est pour vous. Je ris, vous savez pourquoi? Pourquoi cet enfant-là? Parce qu'il n'était ni juif, il n'y avait pas d'origine juive ni arabe. Et c'était la loi à ce moment-là. La loi pas officielle, mais entre les Européens, surtout pas les Juifs, c'est moins que rien, les Arabes, c'est moins que rien. Et voilà pourquoi je suis antiraciste. Et pourquoi j'ai toujours été engagée contre cette ineptie, contre cette graine de malheur qui fait qu'on fait du mal à son frère, à son frère. C'est inadmissible. Moi, étant infirmière, j'ai vu arriver les gens malades et souffrants. Alors je vais dire, c'est un arabe, je ne vais pas le soigner. Non, mais c'est quoi ça?
Mais vos parents étaient arrivés dans quelles conditions en Algérie?
J'ai eu la chance de connaître la maman de mon père, qui s'appelait Emilia. Elle était fière, c'est une grande belle femme, une paysanne, mais une splendeur. Mémé, je l'appelais Mémé Milia. Elle arrivait, elle venait le jeudi, parce que c'était le jour du congé scolaire. Elle arrivait, et je la vois arriver. Elle avait des vêtements de soie, et puis un port de reine. Elle arrivait, elle avait un petit cabal, un petit truc. Et moi, c'était Mémé, la joie, une journée de joie, ma grand-mère arrivait. Et j'étais pourtant heureuse avec ma mère. Elle arrivait, et dans le cabal, elle m'apportait, ça devait être, pendant la guerre, il n'y avait pas grand-chose là-bas, même en Algérie. Elle m'apportait un petit pain au lait. J'étais très gourmande. Et après, elle s'asseyait, ma mère, comment dire, la gâtait beaucoup aussi, la recevait comme ce qu'elle était. Elle avait eu 16 enfants, 16 accouchements. Et elle disait à ma mère en espagnol, et moi, pendant que les adultes causaient entre elles en espagnol, moi, il y avait une espèce de banc devant, parce que c'était en Algérie, donc il faisait beau tout le temps, il y avait une espèce de banc de récupération de je ne sais pas quoi. Et moi, je jouais sous le banc, je faisais ma petite cabane là-dessous, et c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol. Elle disait qu'elle était arrivée, qu'elle avait pris la nuit le bateau avec son mari. Elle était mariée, elle avait 16 ans, elle était enceinte. De Cartagena, parce qu'ils habitaient Valencia, mais ils avaient dû descendre en carriole jusqu'à Cartagena. Si vous regardez la carte, c'est le point le plus proche du point d'Afrique du Nord, de la région de Nemours et Benissaf. C'est le passage pour aller à Gibraltar. Et donc, les gens, les pêcheurs, connaissaient la lune et le risque de tempête, parce que la Méditerranée, c'est en 30 secondes, boum, la houle et la tempête. Et comme ce n'étaient pas des bateaux ayant des moteurs, c'était tout des rames. Vous vous rendez compte? Elle était victorieuse, cette femme. Elle était enceinte. Elle était sur un bateau au risque et péril. Elle atterrit de l'autre côté. Il n'y avait pas de comité d'accueil, tu me crois. C'était le mont, la montagne. la nuit, l'inconnu, les Arabes, le machin, parce que de tout temps, les Espagnols ont eu peur des Arabes. Et elle a eu, tout à fait par hasard, un jour, j'ai récupéré des papiers, et qu'est-ce que je vois ? Elle avait eu 16 enfants, déclarés. Hein. Et donc, ils vivaient dans la montagne. La France avait lancé un appel de bouche à oreille, et par les médias, pour embaucher des Espagnols qui connaissaient la vigne. Ils avaient l'intention, la France coloniale, de planter de la vigne en Algérie, parce que rien d'autre, il n'y avait pas d'eau. Et donc, dans le quartier où habitait ma grand-mère, c'était très populaire, et elle était connue comme Emilia la Huertana. La Huerta, c'est le tour. Et la région du lagon en question, autour du lagon, c'était tout des maraîchers, puisque le lagon était d'eau douce, à deux pas de la mer. Donc c'était Emilia la Huertana. Et quand ils sont venus en Algérie, ils ont rencontré à Sidi Bel Abbès un propriétaire terrien qui leur a loué, je ne sais pas la surface, mais ça devait être 10 hectares, au bord d'une rivière, d'un oued, l'oued Mekera, qui n'était pas loin de sa source, et ils se sont mis à faire ce qu'ils faisaient en Espagne, du maraîchage.
Et Germaine, est-ce qu'on parlait espagnol chez vous ? Ou est-ce qu'on parlait français ?
Alors,
ou...
mon parrain étant consul d'Espagne en territoire français, n'est-ce pas ? L'Algérie, c'était la colonie. C'était même après un département. Le département d'Oran, Alger, Constantine. Et donc, monsieur Francisco Establier, consul qui parlait un français parfait, disait à son personnel, il était célibataire, à son personnel et notamment son majordome, mon grand-père, le papa de Rose, tout le monde doit parler français. Et donc, entre vous, en ça, c'est autre chose. Donc, c'est curieux parce que moi, dans ma petite cervelle d'enfant, j'entendais parler le français. Mon père et ma mère parlaient français. Mon père étant militaire en 14 et après en 39, et il était sous-officier, il parlait français, c'était obligé. Il parlait l'arabe aussi, il parlait l'espagnol, n'en parlons pas. Et il parlait le valenciano, qui ressemble un peu au catalan, mais moins bruyant, moins haché. Le valenciano, c'est vraiment comme une valse. Voilà, ils se mettent à parler, c'est une musique. Et donc, et puis il y avait surtout les plaisanteries, jamais méchantes, mais la dérision des choses. Et moi, j'ai enregistré tout ça. Et, mais parler français était une distinction qu'on pouvait opter, qu'on pouvait s'attribuer si on... On bossait à l'école, si bien que du coup, quelqu'un qui s'exprimait, une personne âgée généralement, mal en français et avec des mots espagnols, on disait « oh », on disait « sale espagnol ». Donc tout ce qui était arabe, juif, espagnol, pas côté l'Argus, c'était le français. Les noms, c'est bien simple, l'institutrice de l'école laïque, à la rentrée, j'étais petite et je me souviens de ça. La classe en était une trentaine de filles, hein. Alors elle faisait l'appel. Ça commençait par Almodovar, Marie. Alors la gamine se levait présent. Après Alberola, Alcaïna, machin, tout ça. Durand. Alors la maîtresse s'arrêtait, la petite fille se levait, elle faisait comme ça, elle recontinuait. Ça m'est resté, ça. Tu vois la valorisation que l'imbécilité. Vous voyez, c'était courant quand les gosses criaient. Dans... Il y avait l'école des garçons et l'école des filles. Eh ben, sale espagnol, sale juif, sale bico. On disait pas bico, on disait. Puis les gamins populaires, quoi, ils disaient. Il parlait moitié espagnol, moitié juif, moitié... D'ailleurs, à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, à Oran, il y a eu des petits journaux qui ont paru avec le langage des populaires, ou c'est avec des mots inventés. Donc, moitié espagnol, moitié... C'était vraiment marrant, c'était l'esprit populaire, l'esprit des rues. L'esprit qui est content d'être vivant après la Deuxième Guerre mondiale, où on a, pendant des mois et des mois, les bombardiers américains passaient au-dessus de chez nous et sur Oran pour aller bombarder le Monte Cassino, la fameuse bataille de Monte Cassino.
Et du coup, est-ce qu'au niveau de la culture espagnole, donc la langue, visiblement, elle n'était pas valorisée. Est-ce que les fêtes dont vous parliez, est-ce que vous continuez à les célébrer en Algérie, des fêtes espagnoles, ou est-ce que dans la façon de manger, la culture espagnole était encore là ?
Ma mère était cuisinière. Alors, les fêtes, c'était ma mère. Ma mère régnait. Et donc, les fêtes venant, d'abord, mon père et mes deux oncles tuaient le cochon. Et c'est ma mère qui... Voilà, ma mère pour les épices, ma mère pour les... Comme une femme peut régner sur l'essentiel, les relations... La bouffe, la vie, la mort. Ma mère, elle faisait ça. Il y avait une femme en couche, on l'appelait.
Et donc, elle contribuait à maintenir la tradition aussi, au niveau des...
Mais ils ne savaient pas, ils vivaient comme ça. C'était là. Alors, avant Noël, je me rappelle avec mes cousins. Moi, je me suis élevée plutôt avec mes cousins garçons. Parce que ma cousine, j'avais une cousine que j'aimais beaucoup et on s'aimait beaucoup, mais elle était plutôt dans les jupes de sa mère. Et moi, j'étais un garçon manqué. Donc, la plus petite, et on faisait des sambombas. C'est-à-dire, on prend une machine en fer, là, de petits pois, un kilo de petits pois. Alors, on gardait le pot comme ça, et puis... avec une peau de lapin qu'on tendait du côté ouvert de la gamelle. Là. Et après, on mettait un roseau, c'est pas moi, c'était les garçons qui faisaient ça. Et on mettait ça à sécher, c'était serti et tout. Et puis on mettait des petits rubans, des petits machins. Et la veille de Noël, les gens dans les quartiers, les femmes, les vieilles, tout ça, allaient d'une maison à l'autre en chantant. Et le crachait dans la main, les hommes crachaient dans la main et faisaient glisser la main sur le roseau, sur la branche de roseau, ou sur, oui, un roseau, et ça faisait vibrer la peau, et la résonance, c'était le pot. Et ça faisait un bruit de boum, 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 un truc comme ça. Et ça, c'était l'alegria. Et il chantait. Esta noche, noche buena, y no es noche de dormir. C'est la belle nuit, la buena noche. C'est pas le moment de dormir. Que está la Virgen de Parto, que la Vierge de Parto, ça veut dire elle est en train d'accoucher. Et je ne me rappelle plus la suite parce que chaque fois je suis tellement émue. Et donc ça allait en chantant, en chantant. Et alors, il n'y avait pas encore la distribution des bonbons ou des nougats. Ils aimaient beaucoup les nougats, bien sûr, de Valencia. C'est Girona à côté. Donc c'était la fête de Noël. Donc ma mère faisait la pava. Ils élevaient des dindes. Et donc, il y avait au jardin, il y avait les légumes et tout ça. Et il y avait surtout les cardons, comme à Lyon, les cardons. Et puis, ayant tué le cochon antérieurement, il y avait la chair à saucisse. Donc, l'art de faire des pelotas, c'était des grosses boules de chair à saucisse qu'on mettait dans le bouillon presque à la dernière minute. Voilà, et puis moi je sais que personnellement j'aimais beaucoup ça. Et donc il y avait la sopa cubierta que seule ma mère savait faire. C'est-à-dire que en premier on mangeait un potage qui était du bouillon de la bête là, de la dinde et des légumes, mais que ma mère prenait les abats cuits, les hachait menus, elle faisait cuire un œuf dur, elle le hachait menu, et le jaune, elle préparait chaque assiette creuse, elle mettait le bouillon, elle mettait le hachis de il y avait le gésier, le foie, le cœur, haché menu, et puis couvert du jaune de l'œuf. Elle avait eu le cordon bleu, ma mère, hein. Le gouverneur général de l'Algérie, qui venait voir monsieur le consul, avait... J'ai une photo où je suis dans les bras du gouverneur, monsieur Giraud, il s'appelait. quel monde, c'était enchanté, c'était pour un enfant, c'est merveilleux. Pour un enfant, c'est merveilleux. Et alors après, c'était Pascua. Et donc, alors Pascua, c'était la paella. Alors c'était mon oncle Eugène qui officiait. C'était un riz, une paella faite de viande. De volaille, de poulet. Et comme on n'était pas au bord de la mer, on ne mettait pas de poisson. Et donc, je sens quand ça commence à frémir comme ça. Puis le safran, ça c'est sacré, c'est ma mère qui mettait le safran. Mais le safran, il poussait chez nous dans la propriété. C'est des bulbes, c'est une très jolie fleur. Hein. Et on prenait la barbe. Ma mère prenait la barbe, elle mettait à l'abri entre deux bouts de papier, je ne sais pas. Et puis donc, ce parfum ineffable et subtil et périssable, hein, attention. Hein. Alors il fallait enlever les bûches de dessous parce que trop de... Il y a une histoire de si le riz est trop cuit. C'est pas bon, est agachao. Tous les mots me reviennent. Et c'était la fête. C'était la fête. Et c'était le moment des fèves. Alors on envoyait les ados. Ils partaient d'eux-mêmes. Les adolescentes et les adolescents. Ils allaient ramasser les fèves. Et c'est là, ils pouvaient se bécoter et tout ça. Et donc, après, on entendait les vieilles qui disaient « Oui, oui, mais celle-là, là, oui, bien sûr. Mais je l'ai vue quand elle est partie ramasser les fèves avec Juan ou avec Pépé ou avec... Tu m'as compris ? Parce que les fèves, ça a la propriété de gonfler. 9 mois après. Et donc, c'était bon enfant. C'était bon enfant. Il n'y avait pas de rejet. Et c'était familial, nouveau. C'était... comment dire ? Le début de l'abondance de nourriture. Parce que pendant la guerre, on ne faisait pas la fête parce que les hommes étaient tous au front et qu'on mangeait ce qu'on pouvait. On n'a pas souffert de famine, non. Il y avait il faut que je te raconte quelque chose. Ça, c'est très important. Dans ce quartier où nous étions, c'était un quartier qui avait été conçu par les militaires, donc rectiligne, tout ça, c'était super trottoir. Et les gens, du coup, qui avaient les moyens, les Français, c'était construit des belles villas et tout ça. Bon. Et puis au bout, là-bas, il y avait le domaine des Oliviers. C'était là que M. Stablier avait sa maison et nos maisonnettes, voilà, donc, entourées de... Et puis il y avait le Loued Mekera qui faisait ça. Et donc, devant, il y avait une grande place et un immense jardin public, une splendeur. Et l'école. École des filles, école des garçons. Et là, il y avait l'avenue Théodore Héritier. Et là, il y avait les commerçants. Et il y avait une petite villa en face de la place. Petite villa. Et de la petite villa sortaient deux fillettes. Une s'appelait Evelyne et l'autre s'appelait Sylvie. Sylvie, c'était la grande, elle était copine avec ma cousine, qui avait 3 ans de plus que moi. Et Evelyne était ma copine. Benamou. Et pendant la guerre, à la rentrée, le 1er octobre, je dis à ma cousine, Georgette, j'ai pas vu Evelyne et Sylvie. Et il faut être à l'heure parce qu'on faisait la levée du drapeau. C'était en 42. Maréchal, nous voilà. On chantait « Maréchal, nous voilà » dans la cour de l'école. Et donc, voilà, les années ont passé. Et en passant devant la villa, il y avait le lierre qui avait couvert la maison. Je faisais une relation après, moi, avec la belle au bois dormant. Et donc, en 45-46, plus de lierre, les portes ouvertes, et la famille qui est sortie. J'ai appris longtemps après que la famille Benamou s'est enfermée dans cette petite maison. Mais il y avait une porte arrière qui donnait sur un patio. Patio, pas patio. Ça, c'est les imbéciles de français qui disent patio. Non, patio, un patio, leche, un patio. Donc, un patio, il y avait 20 familles dans une immense cour avec un puits au milieu. Et le chiotte à côté. Tu vois. Et donc, alors les familles populaires, là, tu vois, je te dis pas. Ils allaient, les femmes, elles allaient, après ça s'est aménagé, ils ont fait des lavoirs, je ne sais pas quoi. Mais enfin, c'était vraiment les masses populaires. Et donc, et c'était des journaliers. C'est le type qui allait avec sa pioche, travailler pour une journée, ou le maçon, ou le machin. Les femmes étant à la maison avec des nichées de gosses pas croyables, ils ont nourri avec ce qu'ils, les tickets de pain, leurs tickets de pain. La famille Benamou, il y avait deux filles et un garçon, le père et la mère. Ils les ont cachés, ils n'ont jamais dénoncé. Il y avait la police partout. Moi, je dis que... Après la guerre, il y a un tas de petits commerçants juifs qui ont ouvert des magasins. Il y avait les premiers tissus pour faire les... Parce qu'on grandit, moi je grandissais horriblement et ma mère ça m'a désespérée. Et donc, je me rappelle, je crois qu'il s'appelait Charlie, ma mère disait, « Oh, tu sais, il y a le magasin Charlie, il est sympa Charlie, sympa Charlie. » Eh bien, la famille Benamou, parce que c'était des communautés juives, ils se connaissaient tous, parce qu'il y avait une synagogue dans la rue, leur rue à eux, leur quartier. Et la consigne, je l'ai su longtemps après, la consigne de Charlie, qui avait sans doute un cousin en France, ou je ne sais pas, c'était que toutes les familles du pâture en question, les filles qui devaient se marier, le trousseau complet, gratuit. Et la même chose, je l'ai appris pour Blacon. À Blacon, grande famille protestante, les Latunes et tout ça, et la famille Richaud. Et la famille Richaud, pendant la guerre, ont caché les parents et aussi les objets du culte israélite, hébreu, je ne sais pas comment on dit, dans leur ferme, à Blacon, dans leur champ. À leur risque et péril. C'était des grands amis de mon mari.